qu'en général, on préfère penser à ses proches, à ses enfants, à ses petits-enfants, à son conjoint, avant de penser à un conseiller en gestion privée. C'est normal. Mais si l'on savait qu'un conseiller en gestion privée est la personne capable de trouver les meilleures solutions pour vous aider à léguer un capital, organiser la transmission de la maison de famille ou la reprise de votre entreprise, on comprendrait très bien que penser à un conseiller en gestion privée, c'est d'abord penser à ses proches. Avec Banque Populaire Gestion Privée, nous vous aidons à optimiser votre situation afin d'assurer l'avenir de votre patrimoine. Profitez d'un rendez-vous patrimonial avec l'un de nos experts en gestion privée en sollicitant votre conseiller Banque Populaire.
Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Ce soir, aux Folies Bergères, aura lieu la 26e nuit des Molières, la fête annuelle du théâtre. Franck Ferrand a saisi l'occasion pour évoquer quelques-unes des grandes comédiennes de notre histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Elles ont eu nom, Armande Béjart, Adrienne Le Couvreur, Mademoiselle Mars, Sarah Bernard, ou plus près de nous, Edwige Feuillère, Madeleine Renaud. On peut dire qu'elles ont chacune donné le ton à son époque. Les grandes actrices du théâtre en France font l'objet d'un recueil signé du dramaturge Franck Bertrand, qui est avec nous dans ce studio. Et pour entrer en matière, je vous propose de revenir sur le cas de Marquise du Parc.
Et puis à la fin de l'émission, vous répondrez à la question que vous a posée Guillaume sur le site Facebook de l'émission.
Alors c'est une des questions, puisqu'il semblerait que beaucoup d'auditeurs nous demandent sur le site et si nous allons parler de Juan Carlos. Alors nous avons consacré une émission à Juan Carlos il y a quelque temps. On va trouver le moyen effectivement de reprogrammer ça le plus vite possible. On l'évoquera et puis je suis, je le disais, dans les tranches d'information en ce moment et notamment chez Nicolas Poincaré ce soir où on évoque l'abdication du roi d'Espagne. Alors, effectivement, Guillaume s'interroge sur l'origine de l'expression « c'est fort Chabrol », autant dire que c'est une question très historique. Pour le moment, je vous propose de retrouver les tréteaux des foires, les costumes de l'illustre théâtre où se produit, sous les yeux écarquillés et devant pas mal de visages un peu couperosés, disons-le, la jolie, très jolie, si jolie marquise.
Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
C'est à Lyon, c'est entre Rhône et Saône, dans Mirlingue la Brumeuse, qu'il faut aller chercher les origines de Marquise du Parc. Quand on dit Marquise, Marquise était son prénom, bien entendu. Il faut reconnaître, nous dit Nadine Audoubert, une de ses biographes, qu'un tel prénom était prémonitoire et convenait parfaitement à celle qui devait éblouir si brièvement, hélas, ses contemporains. Brièvement parce qu'elle a été une sorte d'étoile filante, cette comédienne qui a tellement marqué son temps et probablement, disons-le, marqué les débuts du grand théâtre à la française. On ne sait pas vraiment en quelle année elle est née. Certains nous disent 1630, d'autres 1633. Elle était fille d'un certain Giacomo de Gorla et de sa mère Marguerite Jacquard, qui arrivait de Suisse et qui parlait essentiellement l'italien. Et il faut imaginer que si le couple parlait français, et parlait même très bien français, c'était avec une sans doute l'accent très chantant de la péninsule, bien entendu. Alors ils vivent à Lyon depuis quelques mois, ces gens-là, les Gorla, lorsqu'ils se présentent aux autorités pour s'installer officiellement dans la ville française. On est le 20 décembre 1635 quand ils déclarent leur désir de résider dans la cité lyonnaise, de se fixer ici. En fait, le père de la petite marquise Thérèse, c'est son nom complet, son père vend des marchandises place des Jacobins entre le Rhône et la Saône, donc il va y dresser un théâtre. Vous allez me dire, mais pourquoi un théâtre? Parce qu'il est bateleur. Vous savez, il fait partie de ces gens qui, à l'époque, parcouraient les provinces du royaume et étaient là pour essayer de vendre toutes sortes de choses, des remèdes, des potions, des drogues, des baumes, des poudres, des engans, des potions, des tisanes, enfin tout ça. Et évidemment, il fallait, c'était de vrais bonimenteurs, ces gens-là. Ils étaient capables d'attirer la foule, ils faisaient tout leur boniment, etc. Ils se prétendaient apothicaire, ce monsieur-là, il se prétendait même premier opérateur du roi, opérateur au sens chirurgical du terme, même pour les opérations, et notamment pour les opérations dentaires. Vous imaginez ce que ça devait être, entre parenthèses. Bon, alors pour attirer les passants, il est obligé de faire toutes ces bouffonneries, ces tours de passe-passe, le père de Marquise Thérèse, et notamment, puisque la petite a déjà 5 ans, ben allez, on l'utilise. Vous savez, il n'y a pas d'âme morte à l'époque. Hein. Chacun est là pour aider à l'entreprise familiale. Et l'on voit la petite Marquise qui danse pour amuser les badauds qui s'arrêtent. Déjà, elle est née saltimbanque, si vous voulez. C'est ça qui est extraordinaire. Et elle a, dans les pirouettes qu'elle exécute devant cette foule un peu indifférente encore, il y a cette grâce déjà extraordinaire. Elle est jolie, nous dit Nadine Audoubert, fraîche et bien proportionnée, mais aussi souple et adroite. Cet enfant-là dansait à ravir. Et elle va, pendant très longtemps, quasiment jusqu'à l'âge de 20 ans, elle va comme ça accompagner son père sur les tréteaux. Et alors, inutile de vous dire qu'au début, les regards de la foule sont plutôt amusés, attendris. Ça va changer avec le temps, parce que, bien entendu, quand elle chope 14, 15, 16 ans, la gamine en question devient ce qu'on appellerait, nous, aujourd'hui, une véritable bombe. Et il y a beaucoup, beaucoup de monde qui se presse autour des tréteaux. Elle est superbe, elle est merveilleuse. On ne sait même plus quel superlatif utiliser pour la définir. Voilà ce que nous dit Loret. La Duparc, cette belle actrice avec son port d'impératrice, soit en récitant ou bien en dansant, n'a rien qui ne soit ravissant. Et comme sa taille et sa tête qui font maintes et maintes conquêtes, 1000 soupirants sont témoins que ses beaux pas ne font pas moins. Et nous dit Christophe Maury, l'ami Christophe Maury, qui vient souvent nous parler de théâtre dans cette émission, il la décrit grande, on l'imagine brune, parce qu'elle a des origines italiennes, les yeux bleus, des petits seins, un nez très joli menton, 1m10 de jambes, nous dit-il, dans ce qui relève, à mon avis, au moins autant du fantasme que de la réalité historique, mais en tout cas, on voit les grandes, sublimes jambes de la belle marquise qui est la grâce incarnée. Elle a toujours la chevelure qui tombe, n'est-ce pas? Il faut se fier à l'opinion de ses contemporains, précise Madame Audoubert, aux gazetiers, aux déclarations d'amour des poètes, aux écrits des témoins, puisque nous ne possédons pas un seul portrait représentant Marquise Duparc, si ce n'est une froide gravure de Ilmacher, qui est très très tardive, hein, 1857, d'après un portrait disparu de la collection Solérol, profil pur, nez droit, grands yeux, les cheveux sont relevés à l'antique et dégagent un cou fort long. Oh non, je t'ai plus. Alors, cette jeune fille, elle a la grâce incarnée, elle sait y faire, elle sait s'y prendre, bien entendu. Elle ne sait à l'époque ni lire ni écrire, c'est assez normal. Et elle va intégrer, alors là, tous les biographes nous disent, elle va intégrer la troupe de Molière. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'elle arrive en 1653. Et en 1653, l'illustre théâtre est encore la troupe de Madame Béjart.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Marquise Duparc.
Alors cette Marquise Duparc, je vous l'ai dit, elle va croiser en 1653 à Lyon, bien entendu, le chemin de l'illustre théâtre. Et elle est, nous dit notre invité d'aujourd'hui, Franck Bertrand, elle est voluptueusement belle, infiniment sensuelle et provocante. Elle séduisit bien des hommes, dévoilant ses jambes nues et hâlées par le soleil. Mademoiselle de Gorla ondule et se cambre avec une lascivité extrême, en feignant d'ignorer que tous les hommes brûlent pour elle d'un désir incandescent. Bien des hommes, sans doute quelques femmes, et elle est devenue tellement incontournable d'une certaine manière qu'on se dit dans la troupe de Madeleine Béjart qu'elle ferait évidemment une bonne recrue. Elle va intégrer, elle accepte, hein, elle intègre l'illustre théâtre, elle entre directement dans la troupe où elle fait, inutile de vous dire, un peu des ravages. Il faut imaginer les yeux écarquillés de Molière et ceux aussi de celui qu'on appelle Gros René, René Berthelot, hein, ce Gros René qui est un petit peu c'est le brave homme de la troupe, c'est le rôle comique par essence, il est assez ventripotent, il a un visage assez drôle, il fait constamment de l'humour et il fait rire les gens, il fait rire Marquise sans doute aussi. Elle va l'épouser, figurez-vous, ça paraît incroyable, mais il faut vous dire que Madeleine Béjart et Catherine Debris, qui est la grande comédienne de la troupe, vont beaucoup l'encourager à prendre un mari, ne serait-ce que pour calmer un peu le jeu, parce qu'à partir du moment où elle sera mariée, ça ira peut-être déjà un peu mieux, se disent-elles. Le contrat de mariage va donc être signé le 19 février 1653. D'ailleurs, c'est au bas de ce contrat que figure une des très rares signatures qu'on possède de la main de Molière, vous savez. Duparc, stupéfait que cette beauté ait accepté d'être sa femme, nous dit Franck Bertrand, lui constitue une dot de 3000 livres, ce qui est beaucoup d'argent à l'époque, en y ajoutant de bons habits, des bagues, des joyaux, etc. C'est une dot donc très importante. Et marquise va désormais faire partie de cette troupe qu'elle suit en tournée partout dans le royaume, bien entendu. On la trouve à la fin de l'année 1653 à Montpellier. Elle va revenir à Lyon pour accoucher d'un petit Jean-Thomas au début de l'année 1654. Et puis voilà, repartie à Béziers, remonta à Dijon, etc. C'est une vie compliquée, bien entendu, hein, toujours sur les routes, à pousser, à tirer. Rappelez-vous le film un peu romancé, mais tout de même le film d'Ariane Nouchkine qui nous montre les extraordinaires tournées de l'illustre théâtre à travers la France. Vie de tréteau, vie de courant d'air, diraient certains. Vie en tout cas de saltimbanque avec les drames inhérents à cette époque. Marquise va perdre deux enfants. Jean-Thomas, hein, le petit Jean-Thomas qui meurt dès l'été 1655. Et puis son petit frère Roger qui mourra à son tour au début de 1658. Ça fait partie de la vie à l'époque, bien entendu. Hein, cette mort est toujours présente et les disettes et les difficultés, bien entendu. Oh, dans un premier temps, Marquise est surtout là pour aguicher le chaland. Il faut bien le dire. Elle joue des rôles qui sont relativement mineurs. Son premier rôle réel, c'est dans l'étourdi ou les contretemps où elle joue Hippolyte, figurez-vous. Et c'est à peu près à ce moment-là qu'elle va faire la connaissance du plus grand auteur de l'époque, un personnage très important. Vous savez qu'il y a cette chose qu'on a des difficultés à expliquer, pourquoi la troupe de l'illustre théâtre qui joue à Grenoble à cette époque-là se retrouve-t-elle au milieu de la Semaine Sainte, d'un seul coup va traverser tout le royaume sans donner une seule représentation et va s'installer à Rouen dans le jeu de paume des Braques à quelques pas de la maison des frères Corneille, Pierre Corneille, le grand Corneille, et puis son frère Thomas qui est en train de se lancer dans le théâtre à l'époque et dont vous ne m'empêcherez pas de penser qu'il est à l'origine de cette venue de la troupe de l'illustre théâtre à Rouen, mais enfin, ça n'engage que moi, on n'a aucune preuve de ça. Et alors, bien entendu, le vieux Corneille, si je puis dire, parce qu'il est beaucoup plus âgé que son frère, va tomber, il aime beaucoup les jeunes filles, hein, Pierre Corneille, il faut le savoir, et il va tomber éperdument amoureux de Marquise, et il va lui écrire de dépit après avoir été éconduit, lui le grand Corneille, vous imaginez, il va lui écrire les célèbres stances à Marquise que Georges Brassens, beaucoup plus tard, mettra lui-même en musique.
14h, 15h sur Europe 1.
Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de saltimbanque de Marquise du Parc.
Oui, alors Marquise qui va découvrir Paris, figurez-vous, parce que bien sûr Molière, lui, était un bourgeois parisien, Madeleine Béjart, n'en parlons pas, etc. Il connaissait Paris, mais pas Marquise, ni son mari Gros René, d'ailleurs, qui découvre Paris, qui découvre mieux que ça la cour, puisque en tant que comédien ordinaire de monsieur, il joue devant la cour. Enfin, vous imaginez, c'est un changement de statut total pour des gens qui jusqu'alors étaient plus ou moins des traînes savates qui, avec leur tréteau de l'illustre théâtre, allaient comme ça de place sans marché. Les voilà désormais reçus au Palais du Louvre. Il y a la célèbre représentation du 24 octobre 1658 où ils vont jouer devant Louis XIV, qui d'ailleurs va très vite récupérer la troupe pour son profit, va l'installer, etc. Et on se dit, Marquise a tout pour plaire l'abbé, pourtant elle va faire une infidélité à cette nouvelle troupe qui maintenant est vraiment la troupe de Molière, et elle va s'en aller jouer une saison au Théâtre du Marais. Quand on sait le rôle que jouait Corneille dans le Théâtre du Marais, il y a peut-être là aussi une explication, c'est possible. C'est très complexe de savoir tout ça, vous savez, on ne sait pas, on a très peu d'éléments qui nous permettent d'aller voir dans les coulisses de ce qui se passait dans ces théâtres du XVIIe siècle. Le 13 octobre 1660, elle va mettre au monde une nouvelle fille, Catherine, qu'elle appelle Catherine comme son amie, hein, qui d'ailleurs est la marraine de l'enfant, Catherine de Brie. Et 3 ans plus tard, elle donnera aussi naissance à un petit garçon qui s'appelle Jean-Baptiste René. Le couple du Parc va emménager bientôt rue Saint-Thomas du Louvre dans un très bel appartement avec 2 étages, etc. Enfin, c'est un peu la gloire quand même, il faut le dire. Marquise est liée par un contrat à la troupe de Molière, donc elle va rester pendant un certain temps au théâtre du Palais Royal, la troupe du Palais Royal, et puis finalement elle va franchir le Rubicon, si je puis dire, et elle ira s'installer à la troupe de Bourgogne, de l'hôtel de Bourgogne. Elle attend le 29 mars 1667 pour le faire. Il faut savoir que la troupe du roi appartenait à Louis XIV, c'est donc au roi en personne qu'il faut s'adresser pour obtenir officiellement ce transfert à l'hôtel de Bourgogne. Racine va se charger de faire la demande pour la demoiselle parce que, il faut vous le dire, il y a là-dessous une histoire d'amour. Racine est fou de cette marquise qui du reste va le lui rendre. C'est une très grande histoire en vérité. Il écrit pour la Duparc, il écrit la tragédie d'Andromaque notamment. Au Palais du Louvre, nous dit Franck Bertrand, la troisième œuvre de Racine est jouée devant la reine le 17 novembre 1667, entourée des grands comédiens de l'époque, Floridor, Montfleury, Mademoiselle des œillets. La Duparc interprète le rôle d'Andromaque, veuve d'Hector. L'argument de la pièce est d'une extrême simplicité. On connaît, Oreste aime Hermione, mais celle-ci aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime le souvenir de son mari, Hector. Tué à la guerre de Troie, Andromaque fait sale comble et les deux amants sont portés au nu. Il faut vous dire, parce que j'aurais peut-être dû vous préciser ça, ce qui expliquerait un peu mieux les liens, nouveaux liens de Marquise avec son mari, avec Racine, que son mari est mort entre-temps. On pense qu'il était diabétique, gros René, probablement. Il est mort... on va dire d'une crise cardiaque, dans des circonstances qui là encore sont un peu nébuleuses d'une certaine manière. Alors, un an seulement après la première d'Andromaque, le 11 septembre 1668, Louis XIV salue la pièce, mais Racine ne peut pas se réjouir à ce moment-là parce qu'il est dans l'appartement de Mademoiselle Duparc qui est souffrante. Marquise est alitée. Elle est même si mal à ce moment-là qu'un prêtre a dû être appelé et ce prêtre lui fait renoncer. Vous savez, c'était comme ça à l'époque, il fallait qu'elle renonce à la comédie, etc. Je promets à Dieu de tout mon cœur, avec une pleine liberté d'esprit, de ne plus jouer la comédie le reste de ma vie et quand même il plairait à son infinie bonté de me rendre la santé. Est-ce que finalement Dieu va lui rendre la santé? C'est très peu probable. Un témoin de la scène, un ami du fils de Racine, nous dit « Monsieur Racine reçut les derniers soupirs dans sa dernière maladie, donc de Marquise. Le curé de Saint-Landry qui la vint exhorter, la fit d'abord promettre de renoncer au théâtre, mais quand il vint à la faire renoncer à Monsieur Racine, « Ah ! S'écria-t-elle, monsieur, cela est bien fort !» Le curé s'adressa à monsieur Racine et lui dit « Rede animam Deo, rendez son âme à Dieu !» Monsieur Racine, fondant en larmes, lui répartit aussitôt « Et vous, monsieur, rede dominam, et vous, monsieur, rendez-moi ma maîtresse. » Elle meurt, elle a donc probablement 35 ans à ce moment-là. Et vous savez qu'on va accuser Racine d'avoir, alors quand je dis « on », c'est la voisine, la terrible empoisonneuse, hein, qui va accuser Racine d'avoir tué, empoisonné sa propre maîtresse pour des raisons de jalousie, parce qu'elle n'était pas regardante avec, plutôt elle était très regardante avec un certain nombre d'autres hommes. Il aurait voulu la punir. Aujourd'hui, la plupart des historiens rendent justice sa Racine, de même finalement qu'à Marquise Duparc, en nous disant qu'elle ne serait pas morte du tout empoisonnée, mais bien plutôt des suites d'un avortement auquel son amant l'aurait contrainte. Et l'on comprend peut-être mieux encore les larmes très amères du plus amer des tragédiens. Bonjour Franck Bertrand. Alors,
bonjour.
Nous n'allons pas parler que de Marquise avec vous aujourd'hui. On va évoquer un certain nombre de ces grandes figures du théâtre français. Elles ont toutes brûlé les planches et pas seulement Sarah Bernhardt qui est en couverture de votre ouvrage dans sa tenue d'aiglon.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Nous sommes au cœur de l'histoire des illustres actrices de théâtre avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Franck Bertrand, auteur dramatique, scénariste, romancier, biographe, auteur des illustres actrices de théâtre du XVIIe au XXIe siècle aux éditions France Empire.
Et oui, et toutes ces comédiennes défilent, si je puis dire, sur les planches de votre théâtre de papier, Franck Bertrand. Oui. Elles sont extraordinaires, ces femmes. Alors, j'ai dit quelques mots là de Marquise Duparc. Marquise Duparc, dont on a d'ailleurs voulu longtemps croire qu'elle avait été assassinée par Racine,
oui.
En fait. Il faut dire que l'affaire des poisons va éclater une douzaine d'années après sa propre mort, et qu'au moment de l'affaire des poisons, certains accuseront très longtemps, a posteriori bien entendu, accuseront Racine. Aujourd'hui, on fait plutôt justice au grand tragédien.
Oui, tout à fait. Et je crois que pendant plusieurs années, il a été très ennuyé par cette histoire, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, c'est la voisine qui avait lancé ce bruit. Hein.
Elle avait à essayer de salir et d'accuser tout le monde.
Bien entendu,
c'était son moyen de défense,
bien sûr,
mouiller le plus possible de célébrités de l'époque.
Tout à fait.
Alors j'ai au passage évoqué une de nos toutes premières grandes actrices. J'ai cité la Désœillets.
Ouais.
Il y en a comme ça quelques-unes, mais ce sont les toutes premières parce qu'avant il n'y a pas de théâtre constitué en France. Finalement, le théâtre de rôle, ce qu'on appelle le théâtre de répertoire, il va naître avec Corneille dans ce premier tiers du XVIIe siècle.
Ouais.
Et l'une des premières comédiennes et qui va devenir comédienne ordinaire du roi, s'il vous plaît, c'est Madeleine Béjart qui dirige dirige la troupe dans laquelle a d'abord été engagé Molière, il faut bien le dire.
Enfin, on peut dire même d'ailleurs que c'est Madeleine Béjart qui a fait Molière, puisque c'est elle qui lui a dit « arrête d'écrire des drames et écris des comédies, tu n'es pas fait pour le drame oui. ». Et en fait, elle a joué un peu le rôle de la première femme de Guitry, Charles Lizès, avec Guitry, et c'est elle qui l'a formée, et puis elle a joué, et c'est grâce à elle qu'il a eu du succès.
C'est d'ailleurs étonnant de voir à quel point Sacha Guitry se référait constamment à Molière, à une vision peut-être un peu sublimée de la vie de Molière d'ailleurs, mais si Sacha a osé écrire, mettre en scène et interpréter lui-même, etc., c'est parce que Molière l'avait fait avant lui.
Molière a eu moins de femmes, enfin du moins officielles.
Évidemment, oui.
Mais...
Et oui, c'est même le moins qu'on puisse dire, mais n'entrons pas sur des pentes savonneuses. Il a eu quand même une femme qui est la propre fille de Madeleine Béjart.
Oui, c'est la propre fille ou la sœur, ça, c'est un point d'interrogation. Voilà. Moi, je pense que c'est effectivement, je suis d'accord avec vous, je pense que c'est la fille de Madeleine. Mais toutes les hypothèses sont possibles. Il y a des fois, même
ça pourrait être la petite sœur.
Oui, ça pourrait être la petite sœur, mais je pense plutôt que c'est sa fille, c'est sa mère quand même, parce que je pense pas qu'elle aurait fait tellement, enfin, il n'y aurait pas eu tellement de mystères, tellement de choses. Je crois vraiment que c'est sa mère.
Elle a joué un rôle essentiel. Alors, quand je dis jouer un rôle, là, c'est à la ville, bien entendu, parce qu'elle a joué un certain nombre de rôles sur les planches,
très
bien entendu.
Ouais.
On a dit qu'elle avait créé l'école des femmes, Armande Béjart.
Non, elle ne l'a jamais joué, Armande.
Elle l'a jamais joué, en fait.
Je crois que c'est justement Catherine Debré qui l'a joué.
Oui, tout à fait.
C'est exact, si je ne me trompe pas. Et un jour, je crois, parce qu'Armande voulait le jouer absolument, ce rôle. Et un jour, je crois que Mademoiselle Debré n'était pas disponible et les spectateurs sont venus la chercher chez elle en disant, elle avait déjà la soixantaine, et ils lui ont dit, mais nous voulons que ce soit vous qui jouiez ce rôle, il est fait pour vous, c'est ta nièce. Et donc elle est revenue, elle est sortie de chez... C'est une époque extraordinaire, quoi.
Et elle va devenir une sorte de femme d'affaires, un peu comme était sa mère
Armande.
Ou sa sœur, que sais-je, Armande, hein, puisque après la mort de Molière, finalement, c'est à elle qu'échoit la direction de cette toute première comédie française, hein,
Et c'est aussi grâce à elle que la comédie française se forme.
Mais oui, c'est ça.
Parce que c'est la réunion des deux troupes, le Guénégaud et le Bourgogne. Finalement, elle devient effectivement une femme d'affaires, une directrice de théâtre.
Elle va se remarier
avec un comédien qui était très beau, paraît-il, qui l'a pas mal trompé, qui s'appelait Guérin d'Estrichet. Elle a eu un fils avec lui, Nicolas, qui meurt à 30 ans, qui réécrit une pièce de Molière, enfin un troisième acte qui n'était pas terminé, et elle meurt malheureusement assez jeune. Enfin, pas pour l'époque. Mais
alors, quand les comédiennes meurent à cette époque, il y a cet épisode toujours très très fâcheux, si je puis dire, de façon molièresque, épouvantable, c'est-à-dire qu'on les oblige à renier leur profession, à renier ce qu'elles sont, d'une certaine manière.
C'est ce qu'a fait Madeleine, d'ailleurs. Ouais. Armande, je crois qu'elle l'a fait aussi, et il y a d'autres...
Elles étaient toutes plus ou moins obligées de le faire, en fait.
Non, il y en a qui ont refusé. Par exemple, la Calesse, je crois que c'est Le Couvreur, qui ne l'a pas fait, et qui a été enterrée dans la chaux vive.
Alors Adrienne Lecouvreur, puisque vous citez son nom, elle est l'incarnation même, elle, de cette pétillance d'un esprit parisien et gouailleur tout à la fois, ce que va devenir la grande comédienne, ce qu'on n'avait pas encore vraiment au XVIIe siècle, qui va s'imposer au XVIIIe, bien entendu, à La Chambellée.
La Chambellée est une très très grande actrice,
absolument.
Parce que vous parliez de Duparc, mais enfin, elle a succédé à Duparc, et elle a joué toutes les pièces de Racine, ce qui est assez extraordinaire.
Et à Mademoiselle des Oeillets, oui.
Alors c'était la première libertine, disait-on, La Chambellée.
Pour Adrienne Lecouvreur, c'est en même temps quasiment une femme de salon. Les comédiennes, les actrices, à ce moment-là, commencent à devenir des points de référence de la mondanité, notamment parisienne, il faut le dire.
Oui, c'est exact. Souvent, d'ailleurs, mais ça c'est un peu plus tard peut-être, ce sont plutôt elles qui reçoivent, et qui ne reçoivent en général que des hommes. Parce que les femmes du monde, enfin, c'est pas les femmes du monde, je crois qu'on appelait pas ça comme ça, mais n'acceptent pas tellement de les recevoir.
Oui,
par exemple, je crois que c'est Rachel, alors c'est plus tard évidemment, mais elle ne recevait aucune femme chez elle.
Oui.
Uniquement des hommes, des banquiers, parce que c'est vrai que toutes ces dames étaient très richement entretenues, même si elles gagnaient beaucoup d'argent, parce qu'elles vivaient sur un pied absolument extraordinaire.
C'est assez, leur position est très particulière, puisque un peu à l'instar de certaines courtisanes, mais ce sera d'ailleurs là aussi un peu plus tard, elles sont à la fois un peu au banc de la société d'une certaine manière, pour des mœurs jugées libres, etc. Et en même temps, elles sont le pivot de la socialité parisienne.
Elles sont dans une contradiction parce qu'elles gagnent énormément d'argent, elles sont à la fois libres, elles mènent une vie tout à fait comme ça, et en même temps, elles sont obligées d'avoir des protecteurs. Alors donc, il y a une dualité. Et effectivement, comme vous le disiez très justement, elles sont des reines et en même temps, on les écarte.
Il y a une chose que j'avais un peu oubliée concernant Adrienne Lecouvreur, c'est évidemment, alors on ne devrait pas l'oublier puisque ça a été porté, ça pour le coup, c'est devenu un grand drame, n'est-ce pas? Mais ce sont les circonstances de sa mort, hein, qui sont assez étranges.
La maîtresse, je crois que c'est la duchesse de Bouillon, qui était la maîtresse de Maurice de Saxe, et qui était lui-même l'amant du
maréchal de Saxe.
Oui, voilà, c'est ça. Qui était l'amant d'Adrienne. Donc on a dit que c'était la duchesse de Bouillon qui l'avait empoisonnée en lui faisant porter, je crois, des fleurs empoisonnées. Mais on n'a jamais su exactement.
Hein. Il fallait qu'elle se batte, qu'elle se défende. Je pense à Cécile Sorel, etc. Toutes ces femmes. Elles étaient. Il y en a une dont on a longuement parlé à ce même micro, puisque j'avais raconté sa vie également, c'est la Montansier. Qu'on connaît encore par le nom qu'elle a laissé au théâtre de Versailles, mais il faut savoir qu'elle est la fondatrice de la salle du Palais Royal à Paris, par
exemple.
Elle, c'est une entrepreneuse de spectacle, on va dire.
C'est une entrepreneuse de spectacle. Elle a aussi le théâtre Montansier. Elle a vécu jusqu'à 90 ans. Elle était amie de Marie-Antoinette.
Après, amie des révolutionnaires,
après,
elle a tout été.
Ça la dérange absolument pas.
Elle voyait comment le vent tournait, d'une certaine manière.
Et elle est morte très âgée, 92 ans. Elle a eu un nombre d'amants aussi formidable.
Elle meurt sous la Restauration.
Elle meurt sous la Restauration.
Oui, après avoir connu tout le XVIIIe siècle, elle était devenue une sorte de mémoire vivante. C'est un personnage extraordinaire.
Oui, tout à fait. Elle tenait une sorte, enfin, un salon un peu louche. Hein.
Et elle aura contribué à valoriser les comédiennes. Elle faisait très attention aux femmes dans les distributions.
C'est exact.
Et c'est un petit peu à elle que l'on doit le statut extraordinaire que vont revêtir toutes ces grandes comédiennes du XIXe siècle. Alors nous allons y venir en votre compagnie dans un instant. Je pense à Mademoiselle Mars, bien entendu, et à ses bras de fer homérique avec Victor Hugo,
ça,
bien entendu, on va raconter
ça.
Et puis à Rachel, à Réjeanne, jusqu'à Sarah Bernard, bien entendu. Et alors, c'était effectivement de grandes amoureuses, toutes ces comédiennes, il faut le dire, Céline. Elles étaient, le moins qu'on puisse dire, c'est que leur vie est aussi trépidante à la ville qu'à la scène.
Ah oui, elles ne sont pas qu'amoureuses sur scène. Elles ont beaucoup d'amants et pas uniquement des amants riches. Enfin, je veux dire, elles peuvent conjuguer l'argent et l'amour et être parfois très amoureuses. Comme Mademoiselle Mars, qui donne beaucoup d'argent à un très beau jeune homme qui s'appelle Fortuné Braque et qui lui coûte fort cher. Et elle lui envoie des lettres.
Alors Mademoiselle Mars fait partie de toutes ces... Alors là, on est dans les égéries, hein, vraiment, c'est les grandes actrices du français, de la comédie française.
Le
diamant de la comédie française. Elle était incroyable. Et alors, elle avait son caractère. On raconte toujours, au moment des répétitions d'Hernani, cette espèce de dispute avec...
Toujours ces discussions...
Avec Victor Hugo.
Avec Victor Hugo. Vous êtes mon lion superbe et généreux. Mais cette phrase ne me plaît pas.
Parce qu'en fait, il y a une diérèse. Il faut dire, pour que le verre ait bien 12 pieds, il faut dire, vous êtes mon lion superbe,
voilà,
et généreux.
Ça.
Ça l'ennuyait. Donc elle voulait dire mon héros superbe. Et Victor tenait à ce qu'on dise lion.
Oui, l'un et l'autre tenaient. C'était des discussions qui n'en finissaient pas. Chère grande actrice, cher grand auteur, c'est extraordinaire, quoi, parce que c'est le théâtre, quoi. C'est cette passion permanente.
Elle a fini par céder, etc. Et le soir de la première, elle a quand même dit, vous êtes, alors là, tout le monde
attendait.
Et elle a quand même bien dit mon lion superbe et généreux. Il y a comme ça des figures qui, on l'a oublié, ont été des draineuses de foule. Elles étaient des héroïnes de leur époque. Pensons à Rachel, par exemple.
Rachel.
On a oublié aujourd'hui le succès que pouvait avoir de telles comédiennes.
C'est ça, parce qu'elle avait exactement autant de succès que Sarah Bernard. Rachel, et en plus, c'était la première qui ne jouait pas la tragédie avec des costumes, avec des plumes, des grands chapeaux. Elle la jouait très simplement vêtue. Elle disait les vers, on pourrait dire, presque à l'acteur studio. Enfin,
En fait, avec le cinéma, évidemment, et puis maintenant avec la télévision, on n'en parlons même plus, ce rôle très spécifique de la grande actrice s'est un petit peu passé au deuxième plan. Maintenant, des actrices assez différentes, bien entendu. Mais à cette époque-là, c'était vraiment... C'était des superstars.
C'était
elle qui donnait le là, littéralement.
Tout à fait.
On voit ça très bien dans le volume de La Recherche du Temps Perdu, qui est le côté de Guermantes, où Proust parle de la Berma,
qui est
une sorte de gourou du tout Paris, en quelque sorte.
Et qui est un mélange, je crois, de Sarah Bernard et de Réjeanne.
Et de Réjeanne, bien sûr.
Et encore une autre, peut-être, mais enfin, c'est surtout ces deux-là, quoi.
Oui, Réjeanne qui était alors un peu le modèle de toutes. Alors, elle a un peu mal vieilli, peut-être. On a toujours à l'esprit les mots un peu durs du père de Sacha Guitry, Lucien Guitry, sur Réjeanne, qui était pourtant une amie en même temps.
Mais enfin, je crois que c'était une... Sur Réjeanne?
Oui, sur Réja.
Ah oui, oui, mais pourtant, je crois qu'il. Enfin, je crois que c'était une très très grande actrice.
Oui, oui, tout le monde avait une admiration
folle. Parce que Madame
Sangène
et tout.
Et puis alors elle a réussi, Réja, d'une chose étonnante, c'est qu'elle a été non seulement une grande comédienne, mais elle a été aussi une chef de troupe et une directrice.
Elle dirigeait le théâtre de Paris,
eh oui.
Qui en toute simplicité s'appelait le théâtre Réja, c'est ce qu'il y a de mieux.
Qui va finalement donner ensuite des idées à celle qui restera dans les mémoires comme la plus grande de toutes, alors là sans doute, c'est-à-dire Madame Sarah, n'est-ce pas?
Ah bah Madame Sarah, c'est mythique absolument, je crois qu'il n'y a pas plus mythique. Quand on imagine que, je crois qu'à un moment donné, pour faire plaisir à son mari de l'époque, enfin je crois qu'elle en a eu qu'un d'ailleurs, Jacques Damala, elle achète un théâtre, la Renaissance, elle ne sait pas qui mettre à la tête, à la direction, et elle dit, putain, je vais mettre mon fils qui a 17 ans.
Oui. Enfin, je veux dire, c'est Maurice.
Maurice, c'est ça. Et puis elle part en tournée, elle n'avait pas de compte en banque, elle avait juste un sac.
Mais un jour, elle part pour Belle-Île, qui était sa campagne, si je puis dire, et elle voit le préfet de police sur le quai de la gare. Elle dit, il ne fallait pas vous déranger. Il partait simplement en vacances de son côté, ce monsieur. Mais
c'est ça.
Elle était devenue une telle sommité.
C'est-à-dire quand elle arrive en Angleterre, elle arrive avec son chien, alors que les chiens sont interdits en Angleterre, et elle dit à la reine, bonjour cher ami. Ce qui est absolument incroyable.
Et elle était,
sans limite.
Elle faisait des tournées inouïes dans le monde entier, notamment aux États-Unis. Pour le coup, c'est Sacha Guitry qui, ayant beaucoup recueilli les souvenirs de Sarah Bernhardt, racontait que pendant la dernière des grandes tournées qu'elle a pu faire dans l'Ouest américain, elle jouait devant des troupes de peau-rouge qui ne comprenaient évidemment pas un mot de ce qu'elle pouvait bien baragouiner en français, mais peu importe,
mais
c'était tellement fort, tellement intense, qu'à chaque réplique, il paraît qu'il tirait une salve de fusil en l'air.
Mais bien sûr. On peut dire qu'elle a inventé la publicité, Sarah Bernhardt, c'est extraordinaire.
Alors on a parlé beaucoup ici de Sarah Bernhardt déjà, mais je crois qu'on pouvait pas évoquer les grandes comédiennes sans parler de Madame Sarah et de sa jambe de bois sur la toute fin.
Alors, on a dit aussi qu'elle n'a jamais porté de prothèse.
Oui.
Parce qu'évidemment, il y a cette fameuse histoire que tout le monde connaît.
Oui.
De
Tristan.
C'est ça, non. Je crois que c'est Tristan Bernhardt.
Tristan Bernhardt.
Quand on tape les trois coups, qu'on entend comme ça, Tristan Bernhardt qui dit « la voilà
». C'est vrai. Comme si c'était la prothèse qu'on
attendait. Voilà, c'est ça. Mais pareil, elle n'en a jamais porté, qu'elle n'a pas voulu, qu'elle disait que ça l'embêtait. Voilà.
Alors, ce que je trouve bien dans votre ouvrage, c'est de ne pas vous être arrêté. On aurait pu imaginer que vous en resteriez à Sarah Bernhardt d'une certaine manière. Non, pas du tout. Vous nous parlez d'un certain nombre des grandes comédiennes dont j'ai eu la chance